Travailler sur la langue comme moyen de légitime défense. C'est l'entreprise de Victor Klemperer qui a tenu dès 1933 un journal et des carnets qui serviront plus tard à la rédaction de sa grande œuvre LTI, la langue du Troisième Reich, qui est sortie en 1947. Victor Klemperer, c'était un universitaire allemand, juif, professeur de philologie romane à l'université de Dresde à partir de 1920, qui parvint miraculeusement à traverser toute la période en restant en Allemagne, protégé peut-être par le statut d'arienne de sa femme. S'il échappe à la déportation, il n'échappe pas cependant aux humiliations et aux vexations diverses. Il trouve toutefois la force de documenter ce que le nazisme fait à la langue allemande, ou pour être plus précis, au langage. Les mots inventés ou tordus, les inventions et inversions sémantiques s'insinuent dans les échanges, la littérature, et forment une réalité nouvelle tout entière marquée par cette idéologie. C'est tout ça que vous analysez. Frédéric Joly, bonjour.
Bonjour.
Dans La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui aux éditions Premier Parallèle, et comme l'indique le titre, il s'agit aussi de s'interroger sur la façon dont la langue, le langage donc, peut être un révélateur de notre époque, une époque faite aujourd'hui de repli identitaire et de post-vérité qui concourt à brouiller le vrai du faux. Vous êtes, Frédéric Joly, essayiste et traducteur. Vous avez notamment traduit Walter Benjamin. Vous avez signé en 2015 Robert Musil, Tout réinventé au seuil, qui est un essai biographique sur l'auteur de L'homme sans qualité. Donc Benjamin, Musil, Klemperer, votre intérêt se porte sur ces témoins de cette période où s'effondre la civilisation germanique. Mais comme je le disais, contrairement à Walter Benjamin qui a fui pour finir par se suicider à Portbou au cours de la Seconde Guerre mondiale, Victor Klemperer, lui, est bien resté en Allemagne. Un mot peut-être, c'est ce que vous faites dans le début de votre ouvrage, un mot de biographie, c'est une biographie assez libre que vous dessinez de cet intellectuel juif allemand.
Oui, là, c'est une biographie qui débute avec l'arrivée des nazis au pouvoir au printemps 1933. Klemperer, à cette date, est déjà âgé d'une petite cinquantaine d'années. Il, comme vous l'avez dit, il est universitaire. Il enseigne à l'université de Dresde depuis le début des années 20. Et je dirais qu'il incarne à sa manière, de façon presque exemplaire, ce que l'on appelait la symbiose judéo-allemande. C'est un spécialiste des Lumières françaises. C'est un homme qui aime passionnément la culture allemande. C'est un fils de rabbin.
Mais converti.
Alors, l'itinéraire confessionnel de Klemperer est à la fois extrêmement tortueux et intéressant, puisque très jeune, effectivement, il se convertit au protestantisme sous la pression de frères qui étaient désireux de mener des carrières libérales d'avocat et de médecin. Et en Allemagne, au début du siècle, la conversion était vraiment le passeport indispensable pour mener une carrière libérale ou entrer à l'université. Mais, de façon assez étonnante, Klemperer, à l'occasion de son mariage avec une pianiste professionnelle et protestante, décide de se reconvertir au judaïsme pour ensuite, quelques années plus tard, se reconvertir à nouveau au protestantisme, peu de temps avant d'intégrer l'université et sans doute afin d'intégrer l'université. Donc, un itinéraire particulièrement tortueux qui le poussera à parler lui-même de bigamie confessionnelle.
Alors, vous parlez de symbiose. En France, on a plutôt l'habitude de parler d'assimilation, mais c'est évidemment des termes qui sont assez proches, Frédéric Joly. Mais vous rappelez aussi utilement dans votre ouvrage, La langue confisquée, en rappelant cette biographie de Klemperer et ses années 30, que pour faire symbiose, pour s'assimiler, il faut être deux, et que ça ne fonctionne plus à partir du moment où l'un des deux parties, en l'occurrence l'État allemand, refuse de considérer un juif converti, assimilé, qui est professeur à l'université, c'était évidemment le cas de toutes ces autres professions libérales que vous avez citées et qui étaient occupées par des citoyens allemands de confession juive. Voilà, vous rappelez qu'à un moment, il est éjecté, Victor Klemperer, de cette communauté allemande.
Comme tous les juifs allemands. C'est une réalité à laquelle il a du mal à se résigner, précisément en raison de son attachement à la nation allemande. C'est quelqu'un qui a servi au cours de la Première Guerre mondiale. C'est même quelqu'un qui a fait preuve d'un certain chauvinisme dans sa jeunesse. Et il n'hésite pas à le reconnaître et il va le regretter amèrement. C'est un processus d'éloignement progressif qui se met en place de son côté. L'Allemagne, certes, le rejette brutalement. Lui s'en éloignera au fil des années.
Un rejet brutal de la part des Allemands, enfin de l'Allemagne. Et lui, sa réaction à cela, c'est qu'il commence à écrire un journal et des carnets. Qu'est-ce que ça nous apprend sur à la fois sa réaction, sur ce que ça veut dire d'être un universitaire à l'époque, et puis aussi sur son regard qui évolue sur l'Allemagne, qui est l'Allemagne contemporaine, l'Allemagne des années 30, cette forme du journal et du carnet, Frédéric Joly.
Alors, Klemperer avait toujours été ce que l'on appelle un diariste. Il avait toujours tenu des journaux intimes dès l'adolescence. Donc, il continue. Mais il a tout de suite l'intuition, la préscience que les journaux qu'il va tenir à partir de ce printemps 1933 vont se démarquer de tous ceux qui ont précédé en raison des circonstances. Il va d'abord tout de suite sentir que ces journaux vont avant tout lui permettre de témoigner de ce qui se passe. La visée témoignage est tout à fait essentielle. Et d'autant plus qu'il est persuadé à cette date de ne pouvoir en réchapper. Mais ces journaux ne vont pas simplement lui servir à témoigner. Ils vont devenir très très vite un véritable laboratoire de travail. Puisque dès les premières semaines du règne nazi, Klemperer constate qu'un processus s'est mis en branle avec une rapidité tout à fait foudroyante, qui est un processus d'avilissement de la langue commune, c'est-à-dire une phraséologie forgée de toutes pièces, la phraséologie nazie, est apparue et va progressivement contredire et effacer la langue commune.
Et donc c'est en philologue, il faut peut-être rappeler ce qu'est un philologue, puisque c'est pas forcément la discipline universitaire la plus connue, c'est en philologue qu'il va analyser, regarder cette évolution de la langue allemande et du langage. Encore une fois, il faudra faire cette distinction, si vous voulez bien, Frédéric Joly.
Oui, la philologie, pour le dire très vite, est une discipline qui consiste à réunir les bonnes conditions de l'interprétation d'un texte. On a plutôt tendance aujourd'hui à parler de la linguistique, et c'est précisément cette sensibilité extrêmement fine au langage, qui va lui permettre de prendre conscience tout de suite de ce processus d'avilissement de la langue commune qui est entré en branle.
Et voilà donc ce qu'il en dit. C'est un extrait du documentaire « La langue ne ment pas » de Stan Newman en 2004 que je vous propose d'écouter. C'est évidemment pas la voix de Victor Klemperer, mais une lecture justement de son ouvrage « LTI, la langue du Troisième Reich ».
Pour décrire l'organisation de leur grande manifestation, les nazis emploient le mot « Aufziehen ». Monter un spectacle. Mais ce mot veut dire aussi remonter une montre ou un jouet mécanique et par extension transformer quelqu'un en marionnette. À rajouter à Gleichschalten, synchroniser, se mettre au pas, un terme d'origine technique que toutes les associations emploient aujourd'hui pour déclarer qu'elles se synchronisent avec le nouveau régime comme des automates. La langue nazie met partout l'accent sur l'organique, sur ce qui pousse naturellement. Mais en même temps, elle se grise de métaphores techniques. On retrouve cette contradiction dans le mot « Betriebszelle », qui désigne les cellules du parti au sein des entreprises. Betrieb, entreprise, Zelle, cellule. Encore un étonnant accouplement du mécanique et de l'organique. Ah, cette nouvelle langue.
Ah, cette nouvelle langue, s'exclame Victor Klemperer. Frédéric Joly, il y a un peu tout dans cet extrait, le rapport à la biologie, le rapport à la technique évidemment, et le rapport à cette nouvelle langue, ce nouveau langage tel qu'il l'analysera et qu'il le développera en 1947 je crois dans LTI, enfin Lingua Terti Imperi, pardon pour mon latin, qui est donc la langue du troisième Reich. C'est un rapport instrumental avant tout qu'il tente d'analyser.
Oui, il s'agit de gommer littéralement la langue commune parlée par l'ensemble des Allemands, la faire disparaître et lui substituer, la remplacer par une phraséologie une phraséologie forgée de toutes pièces, dont tout l'objectif est de pénétrer les psychés individuelles pour imposer dans ces psychés une idéologie qui, comme vous venez de le dire, est à la fois faite de technicisation, de biologisation, de mythification également. La démarche de Klemperer est très, très pragmatique, empirique. Il écoute la radio, il écoute surtout les gens dans la rue, dans le bus, dans le métro, dans les commerces. Il écoute et il consigne. Et effectivement, il constate divers phénomènes. Par exemple, l'intrusion dans d'autres sphères de mots appartenant l'intrusion de termes techniques dans des sphères ne relevant pas de la technique. Il constate un accroissement spectaculaire de ces termes techniques et il constate également que cette phraséologie politique envahit une littérature qui n'est pas que politique. Par exemple, c'est quelqu'un qui lit énormément de littérature américaine dans les traductions allemandes, encore disponible, plus pour très longtemps, et qui constate que ces locutions et ces tournures nazies pénètrent même la littérature.
Alors, il y a évidemment les termes techniques, vous relevez, enfin, Klemperer relève, et puis vous, à sa suite, Frédéric Joly, le terme d'évacuation, par exemple, quand on parle de déportation de populations entières et qui sont mises à mort. Mais il y a aussi des termes qui changent radicalement de sens, en tout cas de signifiant. Il y a le terme fanatique, dont je me garderais bien de le prononcer en allemand, mais qui, évidemment, connoté péjorativement jusque-là, devient laudatif dans la bouche du Führer et plus largement donc des nazis.
La LTI retourne comme un gant le sens des mots. Et effectivement, on peut citer l'adjectif fanatique, on peut également citer l'adjectif caractériel, qui pour tout le monde sont des péjoratifs, et qui deviennent des laudatifs sous le règne nazi. Et fanatique et caractériel, la personne qui, de par sa force de caractère, de par son fanatisme, fait preuve de son ancrage national-socialiste. Des mots forgés de toutes pièces viennent se substituer à d'autres. Par exemple, l'adjectif libéraliste, qui va remplacer l'adjectif libéral et qui va permettre de dénigrer tout ce qui se rattache à la culture démocratique des années de Weimar.
Alors, plusieurs reprises, je vous disais qu'il faut bien faire la différence entre la langue et le langage. Et si Klemperer fait cette différence, c'est parce que pour lui, le nazisme et la langue, le langage nazi, est une négation de l'allemand, une négation de l'Allemagne, de son histoire et de ses valeurs. C'est bien ça, Frédéric Joly?
Totalement. C'est d'ailleurs, on peut citer Hannah Arendt qui, en 64, à l'occasion d'un entretien télévisé, s'exclame « Ce n'est tout de même pas la langue allemande qui est devenue folle. » C'est effectivement la langue allemande qui a été la première victime de la LTI, qui l'a littéralement effacée.
C'est une idée que développait notamment Alain Brossa, c'était dans l'émission « Tire ta langue » dans les années 2000 sur France Culture.
Ce jargon fabriqué par les nazis, mais d'une façon générale par les régimes totalitaires, a une fonction essentielle, d'une part, de destruction, de dissémination des structures, des formes organisatrices d'une société normale, d'une société traditionnelle, disons, et d'autre part, une fonction de recomposition d'un autre monde social, qui est un monde porté littéralement par ce nouveau langage qui notamment va permettre toutes les opérations de fuite en avant et toutes les opérations d'installation dans un monde imaginaire. Donc à ce titre-là, le travail très intense que font les nazis, que fait l'État nazi, que fait la propagande nazie sur la langue considérée comme une sorte de patte est un élément tout à fait essentiel dans ces dispositifs de mise en ordre de la société ou de ce que les nazis appellent « Gleichschaltung », c'est-à-dire mettre à niveau, de mise à niveau de la société, ce qui signifie naturellement tirer cette société vers le bas.
Alors voilà le philosophe Alain Brossat au micro de France Culture, Frédéric Joly, la langue comme une pâte, c'est véritablement ça que révèle Victor Klemperer.
C'est absolument ça. Je crois qu'il faut bien comprendre que c'est une opération qui a été très, très sciemment conçue. Tout cela n'est absolument pas le fruit d'une logique de hasard malheureux. C'est une politique. Et je crois qu'on peut considérer que le régime nazi est le premier, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, à vouloir littéralement s'ancrer au cœur même de la langue. Ça, c'est quelque chose, je crois, de tout à fait
capital. Ça, c'est Klemperer qui le montre, ou ce sont plutôt des travaux à partir de ce qu'il a pu écrire qui permettent à des historiens, des essayistes comme vous, de recontextualiser finalement ce que lui analyse, comme vous le disiez, en écoutant la parole des Allemands, en lisant la littérature, les traductions, en écoutant aussi la radio, qui est importante. La radio, c'est évidemment une technologie importante dans la diffusion de cette parole, de cette langue LTI, de cette langue nazi, Frédéric Joly. Est-ce que tout ça, Victor Klemperer avait conscience qu'il s'agissait d'une politique orchestrée, ou est-ce que c'est plus tard qu'on s'en rend compte ?
Il en a eu parfaitement conscience très très vite. Et donc, je dirais, nous évoquions les journaux. Ces journaux, il va les tenir pendant les 12 années du règne nazi, pendant toutes ces années de persécution. Je crois utile de préciser que c'est effectivement son mariage avec son épouse, ce mariage que l'on appelait en ce temps-là un mariage mixte, et qui lui octroie un statut tout à fait particulier, qui va lui permettre d'échapper non pas au pire. C'est au fond la destruction de Dresde par l'aviation alliée qui va permettre au Klemperer d'échapper au pire au début de l'année 45, puisqu'à cette date, leur déportation et leur assassinat étaient chose actée. Disons que ce statut leur permet au moins de tenir jusqu'à l'anéantissement de Dresde. Et c'est donc tout au long de ces 12 années de persécution que Klemperer va amasser, au moyen de ses journaux, un matériau gigantesque en fait.
Mais de persécution, parce qu'on l'a pas dit, il a été exclu de l'université, il n'avait plus le droit de se rendre à la bibliothèque, il n'avait plus le droit de siéger aux différentes commissions, aux prix ou différentes institutions dans lesquelles il siégeait en tant qu'intellectuel allemand.
Tout à fait. Avec son épouse, ils sont à un moment donné obligés également de quitter leur maison pour laquelle ils s'étaient lourdement endettés et pour être installés de force dans ce que l'on appelait à l'époque sinistrement une Judenhaus, une maison de juifs. Et ils passeront les dernières années de la guerre à passer de Judenhaus en Judenhaus, dans des conditions évidemment toujours plus dramatiques et toujours moins propices au travail. De sorte que, je crois, dans les dernières années de la guerre, ça on le voit très bien, le lecteur des journaux le perçoit, dans les dernières années de la guerre, il ne s'agit plus que de consigner le désastre au quotidien. Il devient de plus en plus difficile de penser ce matériau. C'est à partir de 1945, une fois le régime nazi définitivement mis à bas, que Klemperer pourra effectivement penser ce qui s'est passé en s'appuyant sur cet immense matériau que constituent les journaux. Et c'est effectivement à partir de cette date qu'il se lance dans l'écriture de LTI.
Et ce qu'il pense, c'est notamment un processus de contamination, puisque la métaphore biologique est importante dans le discours nazi, évidemment, mais aussi dans la façon qu'a Victor Klemperer de l'analyser, un processus de contamination de tous les aspects de la société, de faillite du sens, contamination jusqu'aux opposants même du nazisme, puisque il le dit, tous pestaient contre le nazisme et le faisaient dans sa rhétorique.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça, c'est quelque chose. Là aussi, c'est un constat qu'il opère très très vite. C'est que cette rhétorique nazie est adoptée inconsciemment et avec une facilité assez déconcertante par des gens qui non seulement n'ont aucune sympathie pour le régime, mais ont en plus tout à craindre de lui. Dès l'année 34, il s'aperçoit de cela. C'est évidemment un constat qui le plonge dans l'effroi le plus total et qui va d'ailleurs le pousser à redoubler d'efforts de compréhension. Ce que ça veut dire, c'est que la puissance de feu de cette phraséologie était considérable. Et, Et elle était à l'origine de phénomènes de mémoire involontaire. Les personnes qui n'entretenaient pas un rapport suffisamment vivant, actif et aigu au langage succombaient de façon extrêmement aisée à ces phénomènes de mémoire involontaire.
Ce que ça montre aussi, c'est qu'on passe très facilement d'une langue cultivée, d'une langue informée autour de la vérité, de la question de la vérité, à une langue de croyance. Et c'est peut-être là aussi un fil qu'on peut tirer jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on n'a pas encore tout à fait fait, Frédéric Joly, c'est ce moment de bascule où on passe d'une langue cultivée à une langue de croyance.
D'autant plus que les nazis avaient fait en sorte que leur phraséologie partage certains points communs avec la langue cultivée allemande, pour utiliser cette expression. Ils jouaient aussi sur cette confusion en faisant appel notamment à des logiques de pseudo-rationalité.
Par exemple,
on peut citer un dignitaire nazi, Johann von Lerz, qui, traitant de ce qu'il considérait être la culpabilité des Juifs dans la reddition de 1918, prenait toujours soin de rajouter que des Aryens avaient eu eux aussi leur part de responsabilité dans le désastre. Un moyen de singer l'objectivité ou la nuance pour tenter de mieux emporter l'adhésion. Ça, c'était quelque chose que les nazis savaient très bien faire.
Alors, cette dégradation de la raison évoquée par Klemperer, ce moment de bascule, il le situe autour de l'adoption d'un terme très précis et qui est un terme qui existe encore aujourd'hui de manière très très forte, c'est celui de système,
oui.
Qui est un terme technique, et évidemment, fondamentalement un terme technique, mais qui est devenu un terme politique très important et qu'on a vu évidemment aujourd'hui, dont on a vu la force politique aujourd'hui, que ce soit récemment avec le mouvement des Gilets jaunes en France, mais même plus largement d'un point de vue international, c'est un terme qu'on entend dans la bouche d'un Donald Trump, par exemple, de manière assez quotidienne et assez régulière, Frédéric Joly. Oui.
Effectivement, beaucoup de monde aujourd'hui se remettent à utiliser des expressions du type « mettre à bas le système ». Et le système faisait effectivement partie des locutions fondamentales de la LTI. On ne l'accompagnait jamais du moindre adjectif. Le système,
c'était comme la République, entendu comme étant la République de Weimar.
Voilà, c'est ça. Comme l'adjectif, le péjoratif libéraliste, il permettait de désigner, afin de la dénigrer, la République de Weimar. Ce régime, encore une fois, libéral et parlementaire et démocratique, qui avait toujours été exécré par les nazis.
Et alors, c'est vrai que c'est aussi un travail sur les mots, non pas sur leur sens en tant que tel, c'est ça que montre Klemperer et que vous relevez aussi Frédéric Joly. Il ne s'agit pas d'un sens de travailler au niveau individuel, mais bien de travailler au niveau collectif.
La LTI était fondamentalement un langage de croyance, c'est-à-dire un langage pour croire et faire croire, et pour faire et faire faire, et faire faire l'inexpiable à tous, en effet. Ça, c'est quelque chose que Klemperer, c'est un point auquel Klemperer attache une importance fondamentale et qui explique aussi la persistance de LTI à l'après-guerre. C'est parce que la LTI était un langage.
Donc, la LTI qui est la langue, c'est comme ça que Klemperer, on l'a déjà dit, hein, mais peut-être pour les auditeurs qui nous attraperaient en cours, c'est comme ça que Klemperer définit la langue du Troisième Reich.
Tout à fait. Et c'est précisément parce que la LTI était un langage de croyance qu'elle survit en 45 à la disparition du régime nazi. Ça, il s'en aperçoit notamment en parlant avec un de ses anciens élèves. Un homme jeune d'une trentaine d'années, compromis sous le nazisme, jugé compromis par les autorités alliées. Et qui, comme toutes les personnes compromises en 1945, avait la possibilité d'entamer une démarche de réhabilitation pour pouvoir exercer à nouveau une activité professionnelle. Et cet homme, jeune encore une fois, choisit de ne pas entamer de démarche de réhabilitation, et il le dit à son ancien professeur, il le reconnaît volontiers, tout simplement parce qu'il croit encore au Führer. Et Klemperer, à ce moment-là, se rend compte que s'il croit encore au Führer, c'est avant tout parce qu'il parle encore la LTI.
Et alors, il y a aussi une façon peut-être de montrer à travers Victor Klemperer, et que puisque vous citez l'après Seconde Guerre mondiale, essayer de comprendre comment l'antisémitisme, par exemple, a été renforcé par la Seconde Guerre mondiale. Non pas, il n'a pas, c'est-à-dire ce qui s'est passé à ce moment-là n'a pas entraîné une sorte de rejet ou de prise de conscience sur ce qu'entraînait l'antisémitisme, mais que la langue nazie, la victoire de la langue nazie, c'est ça, c'est d'avoir perpétué, renforcé en quelque sorte l'antisémitisme, même après la Seconde Guerre mondiale.
Alors ça, c'est un constat effectivement pour le moins troublant qui est opéré par Orwell, par George Orwell, pour ce qui est de l'Angleterre notamment. Orwell écrit un texte qui est très peu connu en France, qui n'a été repris dans aucun de ses recueils d'articles, et qui effectivement montre comment le fait d'avoir appris ces atrocités de masse n'a absolument pas contribué à l'extinction de l'antisémitisme, mais au contraire à son renforcement.
Alors c'est évidemment encore un élément qui nous renvoie jusqu'à aujourd'hui, Frédéric Joly, puisque, je le rappelle, le titre de votre ouvrage, c'est La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui, donc c'est publié aux éditions Premier Parallèle, il est 13h21 sur France Culture, nous allons parler d'aujourd'hui maintenant.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Parler d'aujourd'hui, Frédéric Joly, c'est faire des parallèles, comme vous le faites à la fin du livre, avec cette époque, hein, évidemment, sans dire qu'on vit la même chose aujourd'hui, sans attendre le point Godwin, comme on dit maintenant assez régulièrement tout de suite, mais juste dire que il y a aujourd'hui, on peut voir un certain nombre de confiscations, des mots qui sont changés, qui changent de registre, et qui sont déplacés, voilà, c'est le terme que je cherchais, comme dans la langue de la communication. Et c'est ça que vous analysez à la fin du livre, Frédéric Joly.
Oui, vous aviez reçu, je me souviens, au printemps dernier, l'écrivain Grégoire Bouillet, qui avait évoqué cette question et qui avait choisi comme exemple le verbe « profiter », en montrant que tout le monde aujourd'hui utilisait ce terme. On conseille de bien profiter de son week-end, de profiter de ses vacances. Et Bouillet évoquait également une scène de supermarché où un couple à côté de lui avait eu l'échange suivant. Tu t'occupes de la salade et moi je gère le beurre. Bon, des exemples relativement anodins, plutôt amusants, mais qui témoignent de l'intrusion dans des sphères du monde vécu qui ne relèvent absolument pas de l'économie ou de la finance, de mots appartenant à ces sphères-là, et qui font époque, en fait, et qui disent quelque chose sur notre temps. Et là, précisément, on retrouve dans ces éléments du quotidien le plus prosaïque, ces phénomènes de mémoire involontaire analysés par Klemperer en son temps. Alors effectivement, il n'est pas question de faire des parallèles entre les deux époques, mais de constater que les logiques qu'il avait vues à l'œuvre sont toujours présentes.
Alors là, vous citez des exemples plutôt anodins, mais il y a aussi peut-être un autre parallèle qui peut être tiré, c'est une forme d'ensauvagement du langage. C'est en tout cas ce que regrettait l'historienne Mona Ozouf au micro de France Inter, c'était en février 2019.
La résurgence d'un langage de vulgarité, de trivialité, rappelle d'une certaine manière la Révolution française dans son côté excessif et outrancier, et de ses publications comme Le Père Duchesne, par exemple, mais nous rappelle aussi des choses tout à fait inquiétantes. Je pense au grand livre de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich, qui explique que l'ensauvagement du langage non seulement annonce, mais prépare, mais fabrique même l'ensauvagement des actes. Et il y a quelque chose comme ça dans la situation actuelle. Sur les ronds-points, on vous dit que les paroles qui essaient d'analyser, de critiquer, d'argumenter, sont de l'enfumage. C'est un mot très intéressant parce que c'est la fumée des mots. C'est le brouillard des mots. Et on ne fait plus confiance à ce brouillard et on préfère le mot outrancier parce que, d'une certaine manière, on pense qu'il touche le cœur du cœur, le vrai du vrai.
Un ensauvagement de la langue, on en est là aujourd'hui encore, Frédéric Joly ? On en revient ?
Oui, je pense. Je crois que ce qui m'a poussé à revenir vers l'œuvre de Klemperer, que j'avais découverte au début des années 2000, au moment de la parution des traductions françaises, c'est en partie ce constat-là. Ce n'est pas ce constat-là uniquement. Je pense que il me semble que les mots, la langue sont l'objet de formes de violence très diverses en fait. Je crois qu'un phénomène majeur, c'est le règne d'un langage de la fonctionnalité. Ça me paraît tout à fait important.
On l'a vu récemment au procès France Télécom, puisque Klemperer a été cité, rappelons-le, hein, au cours de ce procès, le harcèlement moral institutionnel a été reconnu par le tribunal, et c'était aussi, c'est des fonctionnements managériaux, mais ce sont aussi des mots, c'est un langage utilisé qui est mis en accusation.
Tout à fait. La présidente du tribunal correctionnel, dans les motivations de sa décision, qui condamne lourdement les anciens dirigeants de France Télécom, a effectivement cité Victor Klemperer, et notamment une phrase de LTI qui est tout à fait essentielle. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic, on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Phrase tout à fait capitale et qui, je crois, dans l'affaire France Télécom, éclaire énormément les choses. Il y a un effet performatif du langage, un effet psychosocial.
C'est-à-dire que la violence qui est faite à la langue et au langage se retrouve dans la société, finalement.
Absolument.
Se diffuse, c'est une violence qui devient réelle dans la société.
Et un certain langage... destiné à fragiliser, à stigmatiser, à exclure, se traduit bien évidemment dans les faits ensuite. C'est-à-dire, on peut citer que le langage de la stigmatisation de l'étranger d'un Trump ou d'un Bolsonaro, mais je crois que la phraséologie utilisée par les cadres dirigeants de France Télécom à l'époque, cette manière de parler de « low performers », c'est-à-dire de salariés à rendement nul ou médiocre.
Sous-performe, on pourrait dire, si on voulait traduire littéralement ce néologisme.
Et était évidemment destiné à faire démissionner les personnes, à les chasser. Et était donc une arme psychologique lourde.
Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a quand même un remède, Frédéric Joly. Ce remède, c'est la littérature. Vous citez notamment Jean-Christophe Bailly sur le tremblé du langage. Et c'est peut-être là qu'il faudra chercher à l'avenir notre salut dans la littérature. C'est une bonne façon de conclure cette grande table. Merci d'y avoir participé. Je rappelle La langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd'hui, c'est aux éditions Premier Parallèle. Il me reste à remercier toute l'équipe de la grande table, programmation et préparation de la grande table, idée Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez. Programmation et préparation de la grande table culture, cette semaine c'est Sophie Catherine Gallet et Jeanne Copé, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréhu. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien, et à la prise de son, Valentin Bobinet.